Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barrichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée slash immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toi et comme toujours, ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais dédicacer cet épisode à Camille. Camille est une fidèle auditrice du podcast et elle s'est récemment expatriée en Australie. Après plusieurs mois, Camille m'a envoyé ce message vocal.
J'avais une petite question à te poser. Tu sais, je suis en Australie et du coup, je voulais savoir si tu avais déjà fait un épisode sur les différences. Je sais que tu as déjà fait les différences de dating et tout, mais genre aussi les différences d'amitié. Parce que en gros, là, ce que j'expérience, c'est que c'est un peu compliqué de se faire ami-ami avec les Australiens.
Ce message me touche personnellement car je suis moi-même arrivée plusieurs fois dans un nouveau pays, seule. Et crois-moi Camille, tu n'es pas la seule à avoir connu cette situation, celle où on se sent perdu et isolé. Cette situation où en plus de devoir apprendre une nouvelle langue et parfois même devoir faire ses preuves dans un nouveau travail, on doit créer de nouveaux liens et de nouvelles amitiés. J'ai donc décidé de faire cet épisode pour toutes celles qui sont arrivées ou qui vont arriver seules dans un nouveau pays. Et pour cela, une invitée va se joindre à moi pour cette conversation. Mais tu verras que je te réserve une petite surprise car tu entendras également d'autres femmes qui t'ont partagé leurs expériences et leurs astuces pour t'aider à te sentir plus à l'aise et à t'intégrer dans ton nouvel environnement. À savoir bien sûr que chaque pays a ses propres spécificités, donc il va falloir bien garder en tête que la vie, c'est avant tout de tester et d'apprendre de ses actions. Sans plus tarder, je vais laisser mon invité se présenter. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement.
Bonjour Kelly, écoute, je m'appelle Florence, j'ai 38 ans, bientôt 39, et je te parle aujourd'hui depuis Paris, en France donc.
Oui, malheureusement, tout le monde sait où se trouve Paris. Merci.
Et je crois qu'il y en a d'autres dans le monde. Hein. Il y en a même un aux États-Unis, me semble-t-il, voire plusieurs.
Figure-toi qu'il y en a même un dans la province de l'Ontario, au Canada, et qui se trouvait à environ 40 minutes de chez moi.
Ça aurait pu être celui-ci.
Donc c'était toujours drôle, mes collègues canadiens qui venaient de la ville de Paris, puisqu'il y en a qui venaient du coup de cette ville et qui venaient travailler et qui se présentaient à moi et qui savaient que j'étais française, ils me disaient tout le temps « Ah, je viens de Paris, Ontario, hein, pas France hein. !» Ah bon, sans déconner. Bref, merci Florence. Florence et moi, ça fait un moment qu'on se parle sur Instagram. T'es une fidèle auditrice du podcast. Donc, je suis ravie qu'on puisse enfin déjà se voir en visio et puis qu'on puisse partager un petit moment ensemble. Donc, encore merci d'avoir accepté de te joindre à moi pour cette conversation. Donc, Florence, même si tu nous parles de la France, tu as vécu dans d'autres pays. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences d'expatriation dans les grandes lignes?
Oui, merci Kelly, et puis merci à toi, hein, bien sûr, de m'interroger ce soir, enfin ce soir, heure de Paris. Donc effectivement, l'expatriation, elle est vraiment, a vraiment joué un rôle, et continue de jouer un rôle très important dans mon chemin de vie. Donc j'ai eu deux expatriations récentes, l'une à Londres, de 2016 à 2017, et l'autre à Casablanca au Maroc, donc de 2017 à 2020, sachant que j'avais aussi vécu un an à Vienne durant mes études, et toujours durant mes études, j'avais fait deux courts séjours, l'un à Tunis, l'un à Damas, où j'ai vécu en fait. Donc j'étais plus ou moins expatriée, même si c'était relativement court.
Et qu'est-ce qui te permet justement de pouvoir vivre dans ces différents pays? Comment tu as été amenée à vivre justement ces différentes expériences?
Alors, la première d'entre elles, donc, lorsque je suis partie à Vienne, en Autriche, c'était dans le cadre de mes études, comme je le disais, parce que j'étudiais l'allemand, entre autres, et on m'a demandé de faire un séjour linguistique, en quelque sorte, pour parfaire mon allemand. Et comme je connaissais un peu l'Allemagne, j'ai choisi l'Autriche. Et Vienne, pour son patrimoine culturel, architectural, m'attirait beaucoup. Donc je me suis retrouvée là-bas et en fait, j'étais pas vraiment étudiante là-bas. J'ai surtout fait un stage à l'Institut français, à l'Institut culturel français de Vienne. Donc voilà, pour cette expatriation. Mes autres séjours, Tunis et Damas, c'était là aussi dans le cadre de mes études. À Tunis, c'était pour apprendre l'arabe. Je suis encore débutante, mais je débutais vraiment à l'époque. Et en Syrie, c'était à l'époque, c'était bien avant la guerre civile, bien sûr. Et c'était dans le cadre de mes études où je travaillais sur les relations internationales et je m'étais intéressée justement à la reprise des relations entre la France et la Syrie à cette époque. Et donc, si j'en viens à mes expatriations plus récentes, là, c'est vraiment un choix de vie. C'est-à-dire que les précédentes expériences que je viens de mentionner le montrent. Hein. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cet attrait pour l'ailleurs, pour l'étranger, vivre ailleurs que dans le pays dans lequel j'étais née. Et depuis que j'avais commencé à travailler, j'étais vraiment assez hantée par cette idée, à savoir que je savais qu'il fallait que je repasse, enfin que je passe une partie de ma vie à l'étranger, sinon je serais passée à côté de quelque chose. Or, j'étais un peu lancée dans mon parcours professionnel. C'était assez difficile de trouver naturellement la voie pour travailler à l'étranger de par ma profession, mon positionnement qui s'y prêtait pas naturellement. Mais comme je savais qu'il fallait que je le fasse, je me suis mise au pied du mur et je me suis dit qu'en janvier 2016, il fallait que je sois à l'étranger. Donc j'ai arbitré entre plusieurs options et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à Londres. Puis ensuite, un cheminement m'a menée à Casablanca. J'ai fini par rentrer en janvier 2020. Donc là, j'ai eu une préscience juste avant l'ère Covid. Mais voilà. Mais néanmoins, aujourd'hui, j'ai en tête de repartir et je pense que ça ne va pas tarder. Donc voilà, c'est pour ça que l'expatriation est vraiment au cœur de mon cheminement, comme je le disais.
Donc ça explique pourquoi tu es tellement fan du podcast.
Tout à fait, tout à fait. Ça me permet aussi de m'expatrier par l'esprit, en fait, en t'écoutant, en vous écoutant. Et puis ça nourrit aussi mon envie et puis mon inspiration, mes idées pour la suite.
Justement, j'allais dire, c'est pas dangereux parce que moi, des fois, après chaque interview, j'ai envie d'aller dans ce pays. Donc, du coup, ça, c'est compliqué.
Ah, moi, c'est terrible. C'est terrible. Ça complique beaucoup les choix parce que tout m'attire potentiellement. Là, notamment, et puis tout type de podcast. Là, j'écoutais aussi des podcasts sur les villes-monde. Et du coup, il y a plein de villes-monde. Et j'ai envie de vivre partout, en fait. Donc, c'est très compliqué. Ça facilite pas les choix et les arbitrages.
Tu m'étonnes. Mais dans chacune de ces expatriations, de ces aventures à l'étranger, est-ce que tu es partie seule ?
Oui, toujours. Toujours. Alors, la toute première à Vienne, j'ai eu de la chance parce que je ne suis pas partie avec, mais il se trouve que j'y ai retrouvé une de mes... Enfin, en fait, on n'était même pas vraiment amis lorsqu'on s'y retrouvait, mais une camarade que j'avais rencontrée durant mes études. Et en fait, très vite, on est devenus très, très proches. Donc, on a quand même beaucoup vécu cette expérience, pas à deux à strictement parler, mais bon, j'avais, disons, quelqu'un de très proche, très rapidement là-bas. Donc, notamment, si on en vient à notre sujet de l'amitié qui va nous occuper aujourd'hui, ça a aussi pas mal orienté le fil de l'histoire. Mais pour les deux autres, effectivement, je suis partie seule et je les ai vécues seules. Et notamment, alors à Londres, c'était un peu différent, mais à Casablanca, je suis vraiment partie d'une feuille blanche. Surtout qu'au début, en fait, j'avais prévu de m'expatrier à Tunis. J'avais construit tout mon projet. Et en fait, à 5 jours de prendre mon avion, on m'a proposé un poste à Casablanca. Donc, j'ai changé du tout tous mes plans. J'avais eu les pieds à Casablanca. Je connaissais un peu le Maroc, mais pas Casablanca. Et du coup, j'ai pris quand même mon vol pour Tunis. Et 5 jours après, j'ai en prenais un autre pour Casablanca. Et donc, je découvrais la ville. Et là, effectivement, j'avais vraiment aucun contact sur place.
Il faut du lâcher prise pour ça, en tout cas. À 5 jours du départ, tout changeait.
Bah, je me suis dit, c'est une opportunité. Il faut la saisir, sinon elle ne se représentera jamais. Donc,
Tu as totalement raison. Alors, je vais poser une question qui va peut-être pas paraître logique pour celles et ceux qui nous écoutent, même pour toi maintenant, mais elle aura du sens, je vous le promets. Est-ce que toi, avant de partir dans toutes ces expériences, est-ce que tu as grandi dans une famille avec des frères et sœurs ? Est-ce que tu étais proche de tes amis ? Est-ce que tu étais quelqu'un de solitaire ? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Quelle personnalité tu avais ?
Moi, j'ai un petit frère de 3 ans, mon cadet, mais on n'était pas une famille nombreuse. Et en termes de cercle social, j'ai toujours été plutôt entourée, mais j'ai toujours plutôt évolué dans avec des amis proches plutôt que d'avoir beaucoup, beaucoup de monde autour de moi. Voilà. Mais j'ai toujours été quand même bien plutôt entourée. Je suis pas solitaire, voilà. Je suis pas quelqu'un de fondamentalement solitaire, même si je suis très indépendante et que j'ai pas peur d'être seule avec moi-même.
En fait, la raison pour laquelle je posais cette question, c'est parce que avant d'en arriver à le moment où tu arrives à l'étranger, j'avais envie de parler de ce moment avant de partir, parce que je pense qu'il est tout aussi important dans le sens où moi, c'était pareil. Alors moi, j'ai grandi avec un frère jumeau, je le répète pour ceux qui le savent déjà. J'avais des meilleures amies, ma meilleure amie, enfin, on était H24 ensemble. J'ai toujours été très entourée. Donc pour moi, en fait, c'était pas normal de me retrouver seule, entre guillemets. Le seul moment où je me retrouvais seule, c'est quand j'allais me coucher. Et je pense que quand on sait qu'on prépare un voyage, peut-être qu'on va partir, il faudrait peut-être prendre un temps, à un moment donné, pour essayer d'apprécier des moments en solitaire, en fait. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que avant de partir, surtout les quelques jours ou la semaine avant de partir, alors déjà qu'on est toujours entouré de monde, mais là, on va se retrouver avec beaucoup de personnes, on va dire des au revoir, ça va être très émotionnel, ça va être très intense. Une fois qu'on va arriver, enfin, qu'on va prendre son avion, on va encore être dans cet ascenseur émotionnel où ça va être super excitant. On va arriver dans un nouveau pays, on va découvrir des nouvelles choses. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, on a été beaucoup entouré. Et du coup, paf, tout d'un coup, on va se retrouver tout seul, en fait. En préparant cette interview et cet épisode, je me suis dit, en fait, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, justement, d'apprendre d'abord, avant de partir, à passer des moments seuls. Comme ça, au moins, on sait comment s'occuper, on sait que c'est OK, en fait, d'être toute seule, et on apprécie d'être avec soi-même, en fait. C'est ça, le truc, en fait. Il faut apprendre à apprécier à être avec soi-même. Donc, je ne sais pas si toi, c'était quelque chose que tu avais déjà fait en amont. Moi, en tout cas, je ne l'avais jamais fait. Mais je l'ai appris une fois que je suis arrivée au Canada, où là, je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à être toute seule. Ça a été très dur. Et je pense que si je l'avais appris avant de partir et que j'aurais accepté le truc, ça aurait été un petit peu plus facile. Donc, c'est pour ça, en fait, je voulais aborder ce sujet.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que je n'étais pas quelqu'un qui avait besoin d'être... Enfin, qui était sans cesse entourée. J'avais un réseau d'amis très solide, des amitiés très profondes. J'ai toujours nourri cette indépendance qui faisait que je pouvais être seule. Et j'en avais fait l'expérience à plusieurs reprises, et notamment dans le cadre de voyages à l'étranger seule. Et ça, je pense que c'est peut-être effectivement un bon tip, une bonne préparation au fait de s'expatrier seul, c'est au moins d'avoir expérimenté le voyage seul. Ça peut être d'ailleurs le voyage sans forcément aller à l'étranger, hein, mais c'est sûr que je pense qu'à l'étranger, on se sent d'autant plus seul, a fortiori quand on est dans un pays qui ne parle pas notre langue natale. Mais même voyager seul, enfin, avoir vraiment l'expérience du nouveau, mais en solitaire, avant de passer effectivement à l'étape suivante, qui est vraiment l'expatriation pour une durée plus ou moins longue, mais en tout cas qui s'inscrit dans la durée seule, ça peut être un bon test, un bon apprentissage, une bonne formation, c'est sûr.
Partir seul, ça peut être tout simplement, tu vas à une ville qui se trouve à, même si c'est à 50 ou 100 km de chez toi, mais tu bookes un hôtel, une auberge, etc. Et juste, tu pars parce que pareil, moi avant, mais jamais ça m'aurait traversé l'esprit d'aller au restaurant toute seule, par exemple. Parce que t'es chez toi, t'es entouré, tu te dis, mais pourquoi j'irai au restaurant toute seule alors que j'ai tous mes amis, j'ai ma famille autour? Bah, en fait, si, je pense que ça serait intéressant justement de se forcer à le faire parce que c'est ce qui t'attendra une fois que tu seras sur place, en fait.
Exactement. Et c'est vrai que si tu n'en as pas eu l'expérience et que tu as des appréhensions, tu risques de te bloquer et vraiment de te retrancher. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'on en reparlera, mais de façon générale, quand on se retrouve seul à l'étranger, il faut vraiment être dans l'effort, en fait, et dans le fait de sortir de soi et de chez soi. Donc, c'est la prémisse à ça, tout à fait. Et tu as raison, hein, ça peut être l'espace d'un week-end ou même une journée, mais vraiment faire quelque chose de seul quand on n'a pas l'habitude de le faire, et c'est déjà très formateur. Et on se rend compte, il faut être à l'écoute de ses sentiments dans ces moments-là et se rendre compte si, justement, c'est très difficile ou si, en fait... on en tire quelque chose de plutôt satisfaisant, plutôt stimulant.
Exactement. Et puis même si c'est difficile, se dire que c'est peut-être difficile la première fois, mais la deuxième fois,
mais
ça va.
Exactement.
Ça devient toujours de plus en plus facile. Mais du coup, se préparer en amont. Bon, puisque tu as commencé à aborder le sujet, maintenant tu arrives sur place. Quelles ont été, toi, les premières choses que tu as faites pour justement commencer à rentrer en contact avec des personnes et pouvoir te créer de nouvelles amitiés?
Alors, pas au Maroc, puisque comme je le disais, ça a été un peu du jour au lendemain, mais à Londres, j'ai anticipé justement. J'ai pas attendu d'arriver sur place pour prendre des contacts, essayer de nouer des liens. Alors, je le faisais aussi un peu à titre professionnel, mais avant tout à titre pas forcément amical. J'anticipais pas forcément des amitiés par ce biais, mais en tout cas relationnel, social. Et notamment, alors là, je vais peut-être un peu vite, mais c'est vrai que je t'entends avec tes invités en parler souvent dans les podcasts, le fait d'aller vers les expatriés ou les Français. C'est vrai que moi, c'est pas... On va dire que c'est pas mon inclination première que d'aller justement vers les Français ou les expats quand je vais quelque part. Mais là, j'avais quand même repéré à Londres. Ben, en plus, Londres, c'est quand même une ville, c'est quasiment une ville d'expatriés. Enfin, pas d'expatriés, mais disons la part d'expatriés, en tout cas d'étrangers, de personnes qui ne sont pas britanniques, qui ne sont pas anglaises, qui vivent à Londres est telle que voilà, c'est dur de les éviter. Et même les Français. Et du coup, j'avais commencé à repérer les communautés qui pouvaient exister, les associations. Et j'avais notamment, j'étais tombée sur une association qui m'avait l'air vraiment très sympathique, qui s'appelait Frog Valley, qui réunissait des entrepreneurs francophones sur place et qui organisait à la fois des apéros mensuels, des petits déjeuners thématiques mensuels, etc. Et donc, je les avais contactés avant de partir. J'avais commencé à échanger avec eux avant de partir et ils m'avaient même proposé de rejoindre le bureau de l'association et de commencer à travailler pour eux, avec eux, sur des articles et autres avant même que je parte. Et ça, c'était très sympa et finalement assez confortable. Alors, ça restait vraiment... c'était au début, j'avais pas rencontré les gens en vrai. Je ne savais pas si vraiment ça allait prendre. C'était quand même assez plaisant pour moi de savoir que j'avais déjà ce premier lien. Et de facto, en fait, ça a été décisif parce que je les ai vus, je crois, 2 jours après ou 3 jours après mon arrivée. On avait déjà une réunion de l'association. Et en fait, j'ai rencontré des gens hyper intéressants, tout profil, tous horizons. C'était certes des francophones, mais déjà, il n'y avait pas que des Français. Et en plus, avec des parcours de vie très différents. Il y en a qui étaient à Londres depuis 25 ans. Il y en a d'autres qui venaient d'arriver. Il y en a qui étaient depuis 5-10 ans. Enfin... Et en fait, c'est vrai qu'ensuite, cette association et les gens que j'y rencontrais ont joué un rôle assez important dans les relations sociales, dans le cercle social que j'ai ensuite pu me constituer à Londres.
Je suis trop contente que tu abordes ces deux points-là pour 2 raisons. Donc, je parle des 2 points dans le sens où rentrer déjà en contact avec des expats. Donc, tu sais que moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait quand je suis arrivée à Chicago. Je ne l'ai pas fait quand je suis arrivée au Canada. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que c'était une erreur de ma part, en fait, parce que j'ai perdu beaucoup de temps au Canada. Je suis même rentrée en dépression tellement que ça a été difficile pour moi de rencontrer des nouvelles personnes. Mais du coup, voilà, je suis contente que tu l'abordes. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu parles d'association, parce que justement, c'est un autre point que je voulais absolument aborder, parce que c'est aussi une erreur que moi j'ai fait, c'est de ne pas faire de volontariat. Moi, en France, j'ai grandi. Pour moi, le volontariat, ce n'était pas quelque chose de normal, on va dire. Enfin, ce n'était pas quelque chose dans notre quotidien. Au Canada, le volontariat, c'est dans la culture. Si tu es citoyen canadien, tu dois faire du volontariat. C'est comme ça. C'est limite la loi, tu vois. Et en fait, c'est vrai que quand tu commences à joindre des associations, en plus, ça va être des associations qui te parlent, qui vont être des choses qui te plaisent, qui ont tes valeurs. Et là, en fait, tu vas commencer que ce soit pas seulement avec des expats, mais avec des locaux, en fait. Mais des personnes qui ont des intérêts communs à toi. Et du coup, c'est intéressant parce que là, tu es déjà en train de rentrer dans une niche de personnes qui te ressemblent. Et je trouve que ça aide vachement parce que souvent, on va entendre parler des groupes Facebook, on va entendre des meet-up. Mais ça n'empêche que là, tu vas avoir un amas de personnes et ça ne va pas forcément être des personnes qui ont des intérêts similaires aux tiens. Donc vraiment, merci Florence, parce que je trouve que tes 2 conseils-là, ils sont vraiment... pour moi, c'était vraiment les 2 que j'avais vraiment envie d'aborder aujourd'hui et c'est les bing, t'as tapé en plein dans le mille. Donc c'est super. C'est super parce que je trouve que effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Et je sais qu'on en a parlé un peu dans les coulisses avant qu'on appuie sur enregistrement. C'est l'importance aussi d'être patient, d'être très patiente avec soi-même et avec les autres aussi. Parce que ça ne veut pas dire que toi, quand tu as rejoint cette association, que tu as fait la première réunion, ça ne veut pas dire que tu as accroché avec tout le monde. Et peut-être que voilà, tu ne les reverras jamais.
Voir avec personne, oui.
Exactement. Non, c'est sûr. Et c'est ouais. OK, en fait, parce que les amitiés qu'on a construites en France, elles ont pris des années à se construire.
Exactement, exactement. Et ça, c'est très important. Et il ne faut absolument pas, quand on arrive... quelque part, attendre de retrouver un cercle social à l'identique de celui qu'on a quitté en l'espace de quelques semaines, ou même quelques mois, et je dirais même quelques années. Enfin, effectivement, quand on parle d'amitié, pour certaines qui nous remontent depuis l'enfance, l'adolescence, les études, c'est pas comparable. Et je pense que du coup, il faut pas chercher la même chose, en fait. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas chercher des relations, des amitiés de qualité. Ça va venir, ça viendra, les opportunités se présenteront, mais il faut quand même aborder les contacts que l'on a, les rencontres que l'on fait de façon beaucoup plus ouverte, en embrassant en fait à tout un spectre de relations qu'on peut nouer et qui dans tous les cas vont participer à notre intégration, du fait qu'on va se sentir bien, de notre vie sociale, du fait que vraiment on va trouver ses marques, prendre ses repères et se construire une vie qui puisse nous convenir aussi sur le plan social et amical dans notre nouveau pays. Mais voilà, en ayant vraiment un esprit ouvert et en sachant apprécier tout type de relation, en fait. Du moment que les personnes, bien sûr, sont des gens corrects.
C'est exactement, c'est un très bon conseil ce que tu dis, parce que tu sais, c'est limite comme chercher un mec sur les réseaux, enfin sur les sites de rencontres. Waouh, il va en falloir que tu ailles en boire des verres avant que tu tombes sur une perle rare.
C'est clair, ben oui, tu vas pas avoir le prince charmant là.
Ils attendaient que tu arrives dans le pays. Non,
exactement. Voilà.
Moi, je me souviens aussi que quand je suis arrivée au Canada, je me suis retrouvée dans une entreprise et entourée de personnes qui, eux, ont toujours vécu au même endroit. Donc, en fait, tu vois, j'étais même un peu... Enfin, je sais pas comment dire. J'étais une attraction, tu vois, une espèce d'attraction de... Punaise, regarde, elle vient de la France. Enfin, tu vois, pour eux, c'était... Ils en voyaient pas souvent, en fait.
Curiosité.
Voilà, le centre de toutes les curiosités. Ils comprenaient pas, mais pourquoi elle vient de la France? La France fait rêver. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et eux, ils ont tous leurs amis, ils ont leur famille. En fait, ils ont leur vie.
Et ils n'ont pas besoin de nous pour leur vie sociale.
Exactement. Ils n'ont pas attendu que Kelly débarque un jour pour commencer à sortir le samedi soir. En fait, ils ont déjà leur routine, ils ont déjà leur truc. Donc ça, il faut l'accepter aussi. Et d'ailleurs, moi, une réflexion que je me suis fait en préparant cet épisode, c'est que quand j'y repense, et quand j'étais en France, pourtant j'ai travaillé dans une entreprise où on était, donc j'étais dans un centre de recherche où la moitié des employés venaient de l'étranger. En fait, j'ai pas le souvenir, pendant que je travaillais là-haut, avoir invité une seule fois une de ces personnes qui étaient là expatriées dans mon pays. Je me souviens pas l'avoir invité à boire un verre, en fait. Donc, à l'inverse, il faut l'accepter qu'eux non plus, ils ne vont peut-être pas faire l'effort.
Bien sûr, bien sûr.
C'est OK, ouais. En fait.
Non, tout à fait, c'est à toi, en fait, c'est à nous. On ne nous a pas attendus. Enfin, et donc, c'est à nous, si on veut nouer le contact, d'être à l'initiative, en fait. Et ça, de façon générale, c'est cette vie sociale, quand on part de rien, il faut être à l'initiative, il faut accepter d'être à l'initiative. C'est ce que je disais, être dans l'effort même, parce que c'est pas forcément... ça demande parfois, même souvent, de prendre sur soi aussi. Il faut y aller, quoi. C'est à nous de faire le premier geste, le premier pas, et notamment vis-à-vis des locaux.
Exactement. Est-ce que toi, tu as testé, par exemple, d'aller dans une salle de sport pour voir si ça te permettait de faire des...
Alors ça, c'est vraiment... Tout à fait. Ça, c'est vraiment... Là, c'est de l'expérience. C'est ce qui a totalement conditionné mon expérience au Maroc, pour le coup, parce que c'est vrai que je suis très sportive. J'ai toujours été très sportive. Alors, je faisais beaucoup de sport aussi à Londres, mais j'en ai pas eu le même bénéfice, on va dire, sur le plan social et amical. En revanche, au Maroc, ça a été transformateur. Donc, je te disais, je connaissais absolument personne. En revanche, une des premières choses que j'ai faites, c'était de m'inscrire dans une salle de sport. Et en fait, je te dirais que 80%, non, peut-être pas, mais 3/4 des amis marocains qui m'ont été le plus cher et que j'ai toujours aujourd'hui sont issus des deux salles de sport que j'ai fréquentées. Mais j'ai rencontré des gens et construit des relations absolument géniales et dont certaines sont vraiment impérissables, je sais, me suivront toute ma vie. Parce que, effectivement, je suis allée dans ces salles de sport, qu'on a commencé à parler, que c'était chaleureux et qu'on avait cet intérêt partagé, mais ça allait bien au-delà, en fait. Et on a notamment la deuxième, on a constitué tout un groupe et on a commencé à se voir, à faire des activités en dehors de la salle. Et non, c'était assez fantastique.
En plus de faire des amis, tu perds du poids, quoi. Ça, c'est pas fantastique. Mais tu faisais quoi comme sport exactement ?
Alors, dans la première salle, c'était un peu de... C'était très polyvalent, tu sais, je faisais un peu de weight training, en fait, voilà, mais aussi les cours collectifs. Et dans la deuxième salle, et c'est le sport que je pratique toujours aujourd'hui, c'était du crossfit. Et c'est vrai que crossfit, t'as une dimension hyper communauté. Oui, t'es pas toute seule dans ton coin, voilà,
c'est ça, ce que j'allais, un peu la date. C'est ce que j'allais pointer, parce que en fait, bah moi j'ai eu... j'ai eu le sport qui a fonctionné et le sport qui n'a pas fonctionné, dans le sens où je suis arrivée aux États-Unis, mais moi je suis allée juste dans une salle de sport, en fait, une grosse salle de sport comme on peut voir aussi en Europe. Et aux États-Unis, ça a matché. Donc je faisais des cours de spin et il y avait deux femmes qui avaient 20 ans de plus que moi, hein, qui voyaient que j'arrivais souvent genre à la limite du début de la cours de spin et elles étaient trop... au fait, le spin class, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des cours de vélo. Donc en général, ton vélo, il faut que la selle soit ajustée, ton guidon soit ajusté, tu dois clipser tes chaussures. dans les pédales. Donc, ça demande quelques minutes de préparation. Et moi, j'étais toujours à la course. Je sors du boulot, je cours pour arriver à l'heure. Et en fait, une fois, elles sont venues me voir en me disant « Kelly, tu sais, on a remarqué que tu es toujours un peu en time crush. Est-ce que ça te dit qu'on regarde les settings de ton vélo pour qu'on te puisse déjà te le préparer, que quand tu arrives, tu as juste à clipser tes
chaussures ?» C'est adorable.
Ah non, mais c'est adorable. Hein, d'ailleurs, hein, les Américains qui n'ont pas toujours belle image, non, je vous assure, il y en a qui sont vraiment incroyables. Et c'est comme ça que je suis rentrée vraiment en communication avec elles. Et puis maintenant, on se voit encore quand je retourne aux États-Unis. Je vais les voir, on mange, on fait des repas, etc. Mais à l'inverse, donc je suis arrivée au Canada, j'ai continué mes petit cours de spin class. Alors là, ça m'est jamais arrivé en 6 ans que quelqu'un me règle mon vélo. Pourtant, j'allais tout le temps au même cours, à la même heure, etc. Donc, tu vois, d'un pays à l'autre, ça peut varier. Encore une fois, c'est juste pour dire que c'est pas parce que ça marche pas dans un pays que ça va pas marcher dans un autre. Mais il faut tester, en fait. Il faut essayer. Il faut vraiment, encore une fois, j'ai envie de le redire, mais il va falloir mettre de l'énergie et pas non plus être défaitiste. C'est pas parce que ça fonctionne pas qu'il faut remettre le pays en question, ou remettre votre aventure en question, ou se remettre soi-même en question. C'est juste que bah, là, ça ne matche pas. Bon, faut tester autre chose, en fait.
Et c'est très important aussi ce que tu dis. Je pense qu'il faut avoir conscience. Alors, surtout quand on a différentes expériences d'expatriation et qu'il y a des différences culturelles dans la relation à l'autre, à l'étranger, qui seront déterminantes. Et cette expérience en salle de sport, effectivement... Tu vois, pourtant, je te disais, j'allais déjà en salle de sport à Londres, je n'ai fait aucune rencontre. En revanche, j'en ai fait d'autres par ailleurs, mais pas dans les salles de sport. En revanche, au Maroc, et tu vois, même, je te parle du crossfit, qui effectivement, le sport en tant que tel prête déjà le fait de former une communauté, mais même dans l'autre salle où c'était plus un peu individualiste comme approche, mais malgré tout, parce que c'est la culture marocaine, surtout que j'étais la seule étrangère, je pense, de la salle, une des seules étrangères, ils viennent te voir, ils te parlent, ils nouent la conversation et voilà. Et donc mais là, c'est très culturel, assurément.
Et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas sportifs, est-ce que toi, par exemple, t'aurais essayé le groupe, l'application Meetup?
Totalement.
Oui.
Totalement. Mais ça a été, outre l'association là dont je te parlais d'expats français londoniens, enfin d'entrepreneurs français à Londres, c'était, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé Meetup. Alors, j'avoue que j'ai un peu optimisé, entre guillemets, mais pas du tout dans une logique opportuniste. Hein. C'était vraiment à la fois pour mon... parce que j'en avais besoin pour mon travail, puisque je lançais la filiale d'une société de conseil à Londres, donc j'avais vraiment besoin de faire du développement commercial de façon soutenue. Et puis, je savais que c'était l'opportunité de rencontrer des gens, voire beaucoup de gens, parce qu'en plus, alors je ne sais pas vraiment où ça en est, Meetup, et d'ailleurs, le développement varie selon les pays, mais à Londres, à l'époque, c'était vraiment extrêmement utilisé. C'était vraiment... donc, il y avait énormément de Meetup, donc de groupes, avec chacun sa thématique, son centre d'intérêt. Et donc, moi, j'avais repéré ceux qui m'intéressaient pour mon travail, mais même plus largement, où c'était un peu plus englobant, en fait. Et j'ai fait énormément de Meetup. J'en faisais 3-4 par semaine. Comme ça, on peut se dire, c'est pas tant que ça. En fait, c'est quand même pas mal, puisque c'est assez exigeant, parce qu'à chaque fois... Là encore, on en revient au fait de faire un effort. Ça, quand même, ça demande de... Déjà, en plus, c'est le soir, après ta journée de travail. Donc voilà, tu joues les prolongations. Et ça demande à chaque fois d'aller dans un endroit où tu vas connaître personne. Souvent, en plus, c'est toujours un nouvel endroit. Londres, c'est très grand. Donc tu parcours des kilomètres pour aller à ton meet-up. Tu ne sais pas du tout ce que tu peux en attendre, ce que tu vas y trouver, qui tu vas trouver. C'est toujours un peu... Surtout au début, quand tu ne connais pas bien les groupes, c'est un peu le cadeau surprise. Hein. Mais il faut tenter, en fait, c'est ça. Il faut tenter sans forcément en attendre grand-chose, mais en disant pourquoi pas, ça vaut le coup. Et souvent, on a des bonnes surprises. Parfois, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, on le sent assez vite. En général, on arrive quelque part, ça ne s'apprend pas. Et c'est pas grave si on part au bout d'une demi-heure. C'est pas grave qu'on est fatigué, que par ailleurs, des soirs, on a moins d'énergie pour essayer d'engager la conversation, de nouer des liens. Et donc, tant pis. Il faut absolument pas, encore une fois, s'en vouloir et considérer que c'est du temps perdu. Et mais le soir d'après, ben là, ça va être le jackpot, ça va être ambiance très sympathique et on va parler à 2, 3, 4 personnes avec qui on va avoir des conversations très intéressantes. Et sur ces 3, 4 personnes, ben, on va garder un ou deux contacts. Et en fait, ben, peut-être que 6 mois après, 2 ans après, ces personnes sont toujours dans notre cercle amical. Donc,
Et d'ailleurs, j'ai même envie d'ajouter que si toi qui nous écoutes es dans un pays où Meetup, il n'y a pas de groupe, tu peux créer un groupe en fait, parce qu'il y a certainement des personnes qui sont là aussi en train d'attendre à faire des rencontres. Donc, tu peux créer un groupe qui est dans tes intérêts à toi. Je sais qu'ici, à Montréal, ce que j'avais testé aussi, il y a beaucoup de soirées de networking. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus orienté business. Mais moi qui suis dans l'entrepreneuriat, donc pareil, j'étais intéressée par l'entrepreneuriat. Donc, il y a le site Eventbrite. Donc, je mettrai les liens, bien évidemment, dans la description de l'épisode. Eventbrite, où tu peux trouver facilement des événements, en fait, par rapport à tes centres d'intérêt. Donc voilà, il faut vraiment faire des recherches. Je sais qu'il y a aussi un groupe Facebook là, qui est plus pour les femmes, par exemple, qui s'appelle Sorties entre elles. Donc c'est pareil, des fois, je vois des posts passer d'une femme qui va écrire, qui va dire soit je suis nouvelle ou soit je suis là depuis plusieurs années. Et là, tu vas avoir 30 commentaires de femmes qui sont « mais oui, moi aussi, j'ai envie d'aller boire un verre, en fait ». Mais des fois, il faut être celle qui initie ou qui organise le truc. Alors, c'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde de vouloir organiser, mais organiser, de boire un verre, ce n'est vraiment pas compliqué, en fait. Enfin, là, j'ai organisé une rencontre avec des auditrices. Je suis allée dans une espèce de food court. Alors, un food court, c'est un endroit où il y a toutes sortes de, pas que des fast-food, mais plein de petits restaurants. Et en fait, c'est facile de trouver une grande table et puis tout le monde vient et puis au moins, tout le monde peut choisir ce qu'il a envie de manger. Tu n'es pas obligé de te casser la tête à choisir un restaurant. Mais c'est sûr que des fois, il faut faire un peu initier la chose, quoi.
Oui, et puis même si on initie et qu'il y a une ou deux personnes qui viennent, mais c'est pas grave, au contraire. Ça donnera peut-être lieu à des conversations très intéressantes qui seront plus approfondies que s'il y avait un gros groupe. Enfin, tout, je pense, il faut vraiment savoir apprécier toutes les opportunités, toutes les occasions qui se présentent et qui non seulement se présentent, mais que, encore une fois, on génère aussi soi-même.
Il y a une question que j'avais envie de te poser aussi, c'est est-ce que quand toi, t'arrivais dans un nouveau pays, à chaque fois, est-ce que les premiers week-ends, bon, toi, t'avais pas trop de décalage horaire du coup avec la France, mais est-ce que tu dirais que c'était assez récurrent quand même où t'appelais ta famille, tes amis en FaceTime et que tu passais pas mal de temps au téléphone avec eux ?
Non, j'avoue que non. Pourtant, alors, mais c'est aussi, tu vois, alors, je me rends plus très compte, mais tu vois, ces années où je suis partie, notamment les premières années, on utilisait quand même beaucoup moins, de façon systématique en fait, les applis, en tout cas la visio, même les WhatsApp, etc. C'était plus SMS et appels téléphoniques.
On n'avait même pas WhatsApp.
Hein, concrètement. Ouais, peut-être que c'était les débuts, je ne sais plus, tu vois, mais en tout cas 2016. Et donc, moi, je n'ai pas le souvenir. Non, c'était plutôt des mails. Par contre, c'est vrai que mes amis les plus proches, c'était des longs mails, des appels de temps à autre, des appels aussi avec ma famille. Mais non, c'était pas compulsif et c'était pas... mais j'avoue que c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, c'est beaucoup plus simple et du coup beaucoup plus tentant, forcément.
Mais en fait, justement, enfin moi, j'adore notre échange parce que toi, j'ai l'impression que t'es la personne qui a fait toutes les choses dans l'ordre, en fait, sans erreur. Et moi, j'ai fait toutes les erreurs. J'ai fait toutes les erreurs dans le sens où, même si à l'époque, effectivement, on n'avait pas WhatsApp, mais on avait Viber, on avait Tango, si on avait ces... On avait Skype.
On avait un peu Skype, ouais. Ouais, voilà. Skype, ça.
Et en fait, moi, j'ai fait l'erreur que tous mes week-ends, quasiment, enfin beaucoup, en tout cas, je passais beaucoup de temps, soit à appeler mes cousines, à appeler mes copines, à appeler mes parents, etc., etc. Et en fait, c'est normal de vouloir garder contact avec son entourage, je le conçois, mais il faut faire très attention à ça. Ben, moi, en plus, j'avais le décalage horaire, donc forcément, nous, on devait programmer les week-ends pour essayer que ça puisse matcher au niveau de timing de tout le monde. Mais en fait, je pense qu'il faut faire très attention à ça parce que du coup, toutes ces heures-là qu'on va passer au téléphone avec notre entourage, c'est des heures, ça nous prend de l'énergie déjà, mine de rien. Et c'est des heures où on n'est pas en train de faire autre chose, où on n'est pas disponible à se rendre à un événement ou à se reposer tout simplement ou à aller faire du sport. Enfin, moi, je me souviens des fois, j'aimerais bien savoir à quelle heure on s'appelle samedi matin parce qu'en fait, moi, j'ai un cours de spin, quoi. Enfin, j'ai une vie. Enfin, tu vois, quand on a décidé de partir à l'étranger, il faut aussi accepter qu'on va devoir rater des apéros. On va peut-être pas pouvoir être disponible à 14h de l'après-midi parce qu'eux, ils sont en train de faire un apéro. Ils ont envie de nous appeler, en fait. Il faut vraiment accepter qu'à un moment donné, on va faire une séparation. Ça veut pas dire qu'on s'oublie l'un et l'autre. Ça veut juste dire que maintenant, il faut que je me laisse le temps de vivre ma nouvelle aventure, en fait.
Alors, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, c'est bien sûr très important de continuer de nourrir, de cultiver ses amitiés et puis bien sûr les liens avec sa famille dans son pays d'expatriation. Mais il faut pas en faire une béquille pour une absence en fait qui du coup comble ce manque de vie sociale et de relations qui sera inévitable au début. Et si on commence effectivement à tout remplacer, à combler ce vide par les liens déjà existants, eh bien, on ne se donnera jamais la chance, en fait, de créer de nouveaux liens et d'avoir une vie sociale dans le pays où on vit.
Mmh, exactement. Est-ce que tu penses à autre chose qu'on a peut-être oublié ou j'ai pas pensé à te poser comme question ou d'autres tips, conseils?
L'essentiel, je pense, c'est ce qu'on s'est dit à la fois sur saisir toutes les opportunités, enfin, ne pas être vraiment, avoir un état d'esprit très ouvert et pas trop exigeant, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment être capable de tout apprécier et de se donner la chance de savourer, d'apprécier tout type de rencontre, quoi qu'elle nous réserve. Et si certaines ne donnent rien, c'est pas grave et il faut quand même savoir apprécier le moment vécu, la rencontre telle qu'on l'a vécue, et sachant que toute rencontre, peut-être encore une fois, peut s'ouvrir sur une relation très satisfaisante. Donc il faut vraiment être très ouvert d'esprit, être aussi très tolérant et ouvert d'esprit, on l'a aussi évoqué vis-à-vis de la, surtout quand on interagit avec les locaux, des différences culturelles. C'est vrai que les expatriés, même eux avec les expatriés qui ne sont pas issus du même pays que nous, même si c'est vrai, je pense qu'il y a aussi plus de facilité vis-à-vis des expatriés parce que ce qui est très bien, c'est pour ça on en revient au fait de pas se fermer la porte des expatriés et même des Français dans le pays d'expatriation, c'est que ce sont des gens qui ont le même état d'esprit et les mêmes attentes finalement, enfin en tout cas pour beaucoup d'entre eux, vis-à-vis de la nécessité de faire de nouvelles rencontres, de se créer un nouveau cercle social. Mais que ce soit avec eux ou avec les locaux, effectivement, je pense qu'il faut aussi vraiment anticiper les différences culturelles dans la façon d'engager des relations, dans la façon de les nourrir aussi, et du coup ne pas les évaluer, les juger, les apprécier avec sa grille de lecture franco-française, parce que soit on risque d'être déçu si on attache trop d'importance à quelque chose, ou inversement, on n'attachera pas suffisamment d'importance à une interaction et en fait, elle avait beaucoup de valeur. Enfin voilà, dans tous les cas, je pense qu'il faut être sensible à ça et ne pas avoir une grille d'interprétation et de ressenti de ce que nous renvoie l'autre qui soit calqué de nos relations franco-françaises et qui ne sont pas réplicables ailleurs en fait.
Tout en faisant quand même attention à savoir quand même reconnaître les personnes qui vont pas matcher avec nous. Parce que c'est sûr qu'il faut pas juger, il faut être ouvert d'esprit, mais quand même, attention, c'est pas parce que « Ah bah tiens, là, ça a l'air de matcher, mais peut-être que la deuxième fois, ça matchera bien. » C'est OK de se dire « Bah non, en fait, on va mettre cette personne de côté et je vais continuer. » Tu vois ce que je veux dire ?
Non, c'est sûr, surtout si oui, il faut quand même effectivement s'écouter, être sensible à son ressenti. C'est toujours riche d'enseignement. Mais je pensais à ça, par exemple, au Maroc. C'est vrai que, de façon générale, les Marocains sont très, très expressifs et dans les mots qu'ils vont employer, notamment lorsqu'on échange en français, ils vont être très vite dans des démonstrations d'amitié, voire d'amour très, très, très fortes, très engageantes en tout cas avec une grille de lecture franco-française. Et donc, il faut quand même garder à l'esprit que voilà, c'est pas, ça correspond pas quand on dit « ma chérie » à une amie qu'on a rencontrée il y a une semaine, c'est pas la même chose que à son amie d'enfance, voilà, enfin... C'est sans caricaturer, hein, mais voilà, je pense qu'il faut être sensible aussi à ça.
Ouais, parce que ça aussi, c'est difficile justement d'enlever ses lunettes.
Mais c'est ça qui est génial aussi, hein. C'est ce qui est génial aussi. C'est à la fois le premier défi et en même temps une des plus grandes richesses de l'expatriation. C'est justement sur le plan humain que d'arriver à se défaire de ses réflexes, de ces lunettes, comme tu dis, celles qu'on a toujours eues depuis notre enfance, par lesquelles on est totalement conditionné, en fait, et aller voir au-delà, en fait, aller rentrer dans la subtilité des interactions humaines et se rendre compte de la diversité, en fait, de la façon dont les gens interagissent à la surface de la planète, c'est assez, assez formidable, en fait.
J'ai hâte d'avoir une idée, en plus, là, je me dis, waouh, c'est une bonne idée, ça. Prochaine fois que je vais dans un nouveau pays, je devrais m'amuser à faire ça. Tu sais, tu te crées ton jeu de cette famille, là. Je vois que tu rencontres quelqu'un, tu dessines une petite carte avec, tu dessines la personne que tu viens de rencontrer, ses traits de personnalité, et tu te crées ton jeu de cette famille.
Tout à fait.
Tu sais, ça rend un jeu, tu te fais un petit jeu comme ça. Ça peut
non, mais c'est vrai.
Ouais, le truc un petit peu plus fun. Parce que toi, en plus, t'es en train de préparer une expatriation, là.
Oui, alors je commence tout juste. La décision est prise. La région est à peu près identifiée. Maintenant, il va falloir entrer dans le vif de l'action. Je me suis dit, j'ai jusqu'à fin 2024. Je vais avoir 40 ans en 2024. Donc, il faut que ce soit avant l'année de mes, enfin, avant la fin de l'année de mes 40 ans.
Voilà, et ça, c'est ce que je dis toujours. Il faut se fixer une date. Il faut fixer une date, mais se laisser le temps. Donc là, tu as très bien fait ton truc. On est en mars 2023, tu as un an et demi. Tu as déterminé la région.
Oui, mais surtout que j'avoue qu'avant, ça m'aurait paru l'éternité. Mais bon, j'ai plus 25 ans et je t'avoue que j'ai envie de préparer davantage cette expatriation pour aussi partir dans des conditions qui seront pas forcément confortables, mais un peu moins aventureuses qu'avant, parce que ben voilà, enfin après bon, j'ai pas à me justifier, mais c'est vrai que voilà, ouais, je sens que j'ai moins l'énergie pour tout cracher là et recommencer demain de zéro, sans avoir rien préparé. Donc je suis pas non plus, j'exclus pas tout à fait de finir par le faire, on sait jamais.
Ça se trouve, 5 jours avant de partir, tu vas avoir une nouvelle opportunité qui est à l'opposé de ce que tu avais prévu. Tu vas dire, allez, c'est bon, c'est parti.
Je me retrouve au Canada.
À partir du moment où t'as pas, même si tu as son coin, où moi j'avais préparé ma valise d'affaires d'été pour la Guadeloupe, et là le vol se retrouve annulé et je me retrouve à devoir aller en France en plein hiver. Là j'étais où?
Ah, j'avoue, ah. C'est dur. Ouais.
Bon, bah du coup, je me retrouve à devoir checking 2 valises.
Aïe, aïe, aïe.
Mais bon, ça va, c'est des petits problèmes à côté de d'autres situations. Eh bien écoute, Florence, merci beaucoup. Je t'avais pas demandé de préparer ça, mais comme tu connais le podcast, peut-être que tu sais ce que je vais te demander. Mais là, si aujourd'hui, justement, tu pouvais te passer un message avant... Enfin, il y a encore quoi que t'as l'impression... J'ai l'impression que toi, tes expatriations, pour faire des connaissances en tout cas. On va dire si tu pouvais passer un message à Camille, tiens. Je vais changer un petit peu la question. Aujourd'hui, tu passes un message à Camille qui est en Australie et qui commence un peu à désespérer justement de ne pas faire de rencontres ou en tout cas d'avoir le sentiment d'avoir des amitiés qui sont authentiques. Qu'est-ce que tu lui dirais? En plus de tout ce qu'on a dit juste avant.
Sois patiente et donne-toi les moyens. C'est vraiment ça. N'attends pas effectivement de rencontrer les meilleurs amis de ta vie en Australie demain. Mais en revanche, vraiment, engage-toi dans la démarche de rencontrer, va vers autrui, fais le premier pas, ne néglige aucune opportunité et tu verras, tu vas faire plein de belles rencontres et tu vas te donner, tu vas te faire toute une palette de rencontres justement. Tu vas créer toute une palette de rencontres, une palette de relations et ça va donner à ta vie beaucoup, beaucoup de couleurs, beaucoup de richesses. Et il n'y a aucune raison pour que ça n'arrive pas si tu t'en donnes les moyens, c'est certain.
Amuse-toi vraiment, profite. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée?
Si, citation préférée, une de mes citations préférées, c'est de Sylvain Tesson, l'écrivain que j'adore, grand voyageur parmi les voyageurs, qui justement dit « Évangile du voyageur, aime le lointain comme toi-même ». Et j'avoue que pour moi, c'est une phrase qui me guide beaucoup dans ma vie, « Aime le lointain comme toi-même ». Et voilà, c'est un peu un projet de vie.
T'as vu, en plus, ça, je trouve que ça boucle ce que je disais au début, tu vois. Apprends à passer des moments avec toi-même, à aimer ces moments avec toi-même. Tu vois, c'est apprendre à s'aimer aussi et du coup, ça aide beaucoup.
Ou une autre, j'ai une deuxième citation, désolée que j'adore, que j'aime autant que celle-ci. C'est de Paul Morand, cette fois-ci. C'est « Pour moi, ailleurs est un mot plus beau que demain ».
Eh ben, merci beaucoup, Florence. Merci de m'avoir accordé de ton temps.
Grand, grand merci à toi. C'était vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger. Puis comme je te le disais, enfin comme on se le disait, je t'ai déjà beaucoup écouté, donc c'était une expérience très intéressante et de passer dans les coulisses, enfin de l'autre côté.
C'est clair, merci beaucoup. Et puis ben, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, maintenant avec Spotify, on peut laisser, même avec un compte gratuit, on peut laisser un commentaire qui va être propre à cet épisode. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des petits conseils ou des tips à donner à une personne qui part seule, surtout n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et n'hésitez pas aussi à remercier Florence de nous avoir partagé, elle, ses meilleurs conseils. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis comme toujours, il y a aussi Apple Podcast. Donc je sais, j'arrête pas de le répéter, mais c'est parce que ça aide vraiment à rendre le podcast visible. Donc merci d'avance de votre aide et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Merci Kelly.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao !